Venez avec nous, entre Garrigues et Cévennes, au cœur d'un site Natura 2000, pour découvrir les nombreux oiseaux et leurs secrets, accompagnés d'un ornithologue.
Ornitho-quoi ?
Le départ de Cigogne. Beaucoup d'encre a coulé.
Depuis le départ de Cigogne.
Elle a endeuillé le toit, attristé la cheminée,
emporté les frissons du sol,
le gazouillis des oisillons. Heureux temps.
Quand l'arbre avait un nid.
Quand le ruisseau avait un lit. Que la lanterne s'allumait.
Dès que le soleil se retirait.
Dans sa résidence secondaire. De l'autre côté de l'horizon. Noémie.
Dan.
Et Nora.
Bonjour à toutes les escapadeuses et tous les escapadeurs. Nous sommes le 13 mars, c'est-à-dire le deuxième mercredi du mois. Il est 9h34, on est un tout petit peu en retard. C'est le moment où votre ornithoquois s'installe derrière le micro pour une nouvelle émission naturaliste en direct depuis les studios de Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort. Alors voici le programme de votre émission ornitho préférée, avec pour commencer un peu de musique. On enchaînera avec le Naturo Quiz de Lily, où elle vous questionnera sur la migration des oiseaux, puis l'actu piaf avec des nouvelles des oiseaux du coin, le printemps approche à grands pas, enfin ça dépend des jours, aujourd'hui c'est le printemps, mais on sent qu'on n'a jamais été aussi proche. En tout cas, la biodiversité se prépare à des jours plus chauds et plus ensoleillés. Je vous raconterai ce que j'ai vu ces jours-ci. Ensuite, on fera une petite revue de presse dans le Nature Actu et enfin le Vocabupiaf. On terminera cette première partie avec la réponse à la devinette de Lily. Une fois que nous aurons fait tout ça, on fera une nouvelle pause musicale et poétique avec toujours les enfants de l'école de Sumène qui nous offrent quelques poésies qui ponctuent cette émission. Puis, on poursuit cet ornithoquois avec rencontre avec Homo sapiens. Et là, pour le coup, alors, on a inauguré un chantier de création d'une lavogne samedi dernier avec l'association Fourmi Cigale, que vous connaissez bien. Et j'avais pris mon enregistreur pour vous partager ce moment humide avec vous. C'est le moins que je puisse dire. Il pleuvait pas mal. Donc après cette sortie très arrosée, nous terminerons cette ornithoquois en musique et en poésie. Voilà, vous avez le programme. Nous sommes le mercredi 13 mars 2024, vous êtes en direct sur Radio Escapade, vous écoutez l'ornithoquois avec Béranger au micro et Fabien en face de moi qui tourne les boutons. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans votre fauteuil, à mettre vos oreilles sur écoute. Allez, c'est parti, on commence cette émission en musique avec Cat Stevens.
Jumbo planes are taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. Come a long way. We're changing day to day. Tell me, where do the children play? Fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long, and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off.
I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play?
Devinette nature concoctée par notre animatrice en herbe.
Bonjour à tous, c'est le moment du Naturo Quiz, le moment culturel de l'ornithoquois. Alors, voyons vos connaissances sur ces phénomènes mystérieux qu'est la migration. La question est toute simple, mais la réponse peut être très complexe. Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Je vous donnerai ma réponse tout à l'heure, juste avant la pause musicale.
Actu Piaf, des nouvelles des oiseaux de la région au fil des saisons.
Pour continuer, voici l'Actu Piaf et quelques nouvelles des oiseaux du coin. Les jours rallongent, le soleil se fait de plus en plus présent. Après un bon épisode Cévenol qui a fait le plus grand bien aux rivières et aux nappes phréatiques, la forêt se sent requinquée grâce à toute cette eau. Du côté des bêtes à plumes, les locaux chantrent et préparent la reproduction à venir. Les migrateurs migrent, et on a vu arriver ces jours-ci, milan noir, hirondelles de fenêtre, hirondelles rustiques, martinets à ventre blanc, même les premiers circaètes, Jean Leblanc, ont été observés. Pour ceux que nous suivons de près dans notre action Natura 2000, après pas mal de sueurs et de questionnements, on commence à y voir plus clair. En premier lieu, l'aigle de Modelli. Ils n'ont toujours pas pondu, alors que nous arrivons à la mi-mars et que les pontes habituelles pour cette espèce sont plutôt dans la première quinzaine de février. On n'est pas en avance. Mais bon, nous gardons espoir. Les oiseaux continuent à être observés sur leurs falaises. Ils fréquentent un nid et la femelle semble plutôt statique ces jours-ci, ce qui nous fait dire que ça pourrait être pour bientôt. Je vais aller voir ça dès que je sors du studio. Deuxième espèce que nous suivons, l'aigle royal. On pensait les voir s'installer sur une falaise du côté de la montagne des Cagnasses, où on les avait vus fréquenter un nid. Puis, on ne les voyait plus là-haut. Alors, il a fallu aller les chercher. Nous ne sommes pas allés très loin, et hier matin, ils étaient dans les gorges du Rio Tor à Paradé. Bref, tout va bien. Ils nous ont juste fait une blague, et c'est pas la première fois que ça arrive. On va continuer à suivre leurs faits et gestes de près, et on espère aussi une ponte dans les jours à venir. Le dernier rapace Natura 2000, si on peut dire ça comme ça, que nous suivons de très près, je parle du petit vautour percnoptère. Petit par la taille, grand par son élégance. Je dis souvent que c'est le plus bel être vivant que je connaisse, tellement je le trouve beau. Peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est un rapace d'environ 1m70 d'envergure. Son plumage est contrasté blanc et noir, ce qui lui a donné son nom d'ailleurs. Percnoptère veut dire « aile blanche et noire » en grec. Il a les pattes couleur chair, et ce qui est le plus impressionnant lorsqu'on l'observe, c'est sa tête. On dirait qu'il a un masque jaune-orangé qui lui donne un air reptilien. Le percnoptère ne ressemble à aucun autre oiseau. C'est une des pépites de notre territoire. Il y a ici le seul couple reproducteur du département de l'Hérault. L'espèce est menacée en France, mais également dans le monde où il est classé en danger sur la liste rouge de l'UICN. Bref, ça c'était pour vous parler de lui. Mais les nouvelles, ce sont de bonnes nouvelles, car il est revenu de ses quartiers d'hiver. Ah oui, ce que je vous avais pas dit, c'est que le percnoptère est le seul vautour à être migrateur. Donc le mâle du couple local est arrivé mercredi dernier, et la femelle, que nous suivons grâce à un GPS qu'elle a sur le dos, était ce matin dans le Tarn, où elle a passé la nuit dans la montagne noire. Elle devrait certainement arriver aujourd'hui. Le couple sera ainsi reformé et le site à nouveau occupé pour la 44e année consécutive. Espérons que ce soit une bonne année pour tous ces oiseaux. On vous donnera des nouvelles de tout ça dès le mois prochain, ici même.
Nature Actu.
L'actualité naturaliste internationale, nationale et locale, sélectionnée par votre ornithoquois.
À l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage, la liste rouge des espèces menacées en France dresse son bilan. Après 16 années d'évaluation et d'analyse sur la faune et la flore, le panorama établi permet de mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever. Riche d'une remarquable biodiversité, la France abrite en métropole et en outre-mer de nombreuses espèces menacées. Grâce à la liste rouge, elle dispose d'une base scientifique pour identifier les priorités et agir pour les sauvegarder. Le comité français de l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, et l'unité Patrinat, composée de l'OFB, du Muséum d'histoire naturelle, du CNRS et de l'IRD, publie le bilan de 16 années de résultats depuis le lancement de la liste rouge nationale en 2008. 17 367 espèces ont été évaluées en France métropolitaine et en Outre-mer. 2903 espèces sont aujourd'hui menacées. 189 espèces ont disparu en France, dont certaines sont également éteintes au niveau mondial. Grâce aux analyses réalisées, la liste rouge agit comme un véritable baromètre de l'état de santé des espèces. Depuis ses débuts, l'état des lieux a été élaboré avec l'appui de 32 organisations partenaires et plus de 500 experts mobilisés. Il continue à définir les priorités d'action, à surveiller les évolutions et à préserver les espèces menacées en France. Une synthèse complète est disponible sur le site de l'UICN, mais voici quelques chiffres. 16,7% des espèces évaluées sont menacées en France. En France métropolitaine, c'est le groupe des oiseaux qui a un statut le plus préoccupant. En effet, 32% d'entre eux sont menacés. Du côté des reptiles et des amphibiens, ce sont 23 à 24% des espèces qui sont en danger. Lorsqu'on regarde dans les Outre-mer, les chiffres font peur. 41% de la flore vasculaire menacée à La Réunion. 34% des oiseaux en Polynésie française. 42% des reptiles à Mayotte. Enfin bref, pas de bonnes nouvelles encore une fois. Et on ne pourra vraiment pas dire qu'on ne savait pas. Comment aider les agriculteurs à se passer des pesticides? Pour certains, cela passe par le biocontrôle, c'est-à-dire favoriser la biodiversité et les mécanismes naturels. Une étude menée par les chercheurs brésiliens et américains, publiée le 6 mars, démontre justement à quel point les prédateurs naturels peuvent représenter une alternative aux pesticides. Premier avantage, ces prédateurs sont déjà là, dans la nature. Si on n'y fait pas forcément attention, ils sont pourtant précieux, rappelle Thibaut Maloza, spécialiste du biocontrôle à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Typiquement, ça va être des coccinelles, des chrysopes, des carabes et des oiseaux. Tous les animaux qui en mangent d'autres et qui sont relativement gros, précise-t-il. Ces animaux vont s'attaquer aux pucerons et autres nuisibles qui ravagent les cultures. D'après les calculs effectués par les chercheurs brésiliens, ils permettent de réduire la population de nuisibles de 73% en moyenne. Ils entraînent également une augmentation des rendements des cultures de 25%. Les chercheurs ajoutent, si on veut vraiment travailler dans l'intérêt de l'agriculteur en termes de coûts-bénéfices, c'est très clairement vers ces méthodes-là qu'il faut aller. Il faut essayer de gérer cette biodiversité fonctionnelle pour que les prédateurs naturels soient plus nombreux. qu'ils aient plus d'impact sur les bioagresseurs. On peut rajouter éventuellement des mélanges fleuris, des haies, etc. Ces techniques de biocontrôle visent à réduire l'usage des pesticides et elles peuvent être associées à l'épandage de biopesticides, des produits à base de champignons, de bactéries ou autres micro-organismes. En France, le grand défi biocontrôle vient d'être lancé à l'occasion du Salon de l'agriculture. Il vise à accélérer l'innovation, développer et diversifier les solutions de biocontrôle avec un investissement de 42 millions d'euros dans le cadre de France 2030. Des centaines de volatiles ont été retrouvés sur les plages de l'Atlantique les dernières semaines. Une grande partie de ces oiseaux seraient morts par manque de nourriture. Des cadavres d'oiseaux sont échoués par dizaines sur une plage vendéenne. Il s'agit du guillemot, une espèce proche des pingouins qui vivent au large de l'océan Atlantique. Leurs corps ont été charriés par les courants jusqu'au rivage, un phénomène inhabituel constaté par Antoine Prével, bénévole de Sea Shepherd. Dans un laboratoire, les cadavres de guillemot sont autopsiés. Les conclusions sont sans appel. Tous morts de faim et d'épuisement. On voit qu'ils ont un peu maigri. Les guillemot, on est aux alentours de 800-900 grammes. Tous ceux que j'ai eus, sur la moyenne, on est à peu près à 600 grammes, commente un chercheur. La fatigue et le manque de nourriture sont probablement causés par les tempêtes à répétition des dernières semaines. Avec la forte houle, les guillemots n'ont pas pu se reposer ni apercevoir les bancs de poissons qu'ils pêchent habituellement. Des disparitions d'autant plus inquiétantes que l'espèce était déjà rare en France. Le 27 février 2024, les eurodéputés ont adopté la première loi européenne visant à restaurer les écosystèmes dégradés au sein de l'Union européenne. La loi européenne sur la restauration de la nature constitue l'un des piliers du pacte vert pour l'Europe. Le 9 novembre 2023, la présidence du Conseil de l'Union européenne et les représentants du Parlement européen avaient trouvé un accord politique provisoire sur un règlement relatif à la restauration de la nature. Le texte prévoit la restauration de 20% au moins des terres et des mers de l'Union européenne d'ici à 2030 et de tous les écosystèmes dégradés d'ici à 2050. Le texte définit les objectifs et les obligations qui sont juridiquement contraignants en matière de restauration de la nature dans chacun des écosystèmes énumérés, allant des terres agricoles aux forêts et prairies, en passant par les écosystèmes côtiers et marins, d'eau douce ou encore urbains. Pour réaliser ces objectifs, les pays de l'UE doivent remettre en bon état, d'ici à 2030, au moins 30% de certains habitats spécifiques en mauvais état, puis 60% de ces habitats en mauvais état d'ici à 2040 et 90% d'ici à 2050. D'autres exigences sont prévues, entre autres. Remettre progressivement en eau les tourbières. Inverser le déclin des populations de pollinisateurs d'ici à 2030. Améliorer la biodiversité des écosystèmes forestiers en laissant par exemple davantage de bois morts dans les forêts ou en plantant 3 milliards d'arbres supplémentaires d'ici 2030. Reconnecter les 25 000 km de rivières européennes. La partie du texte concernant les terres agricoles a fait l'objet de divergences. Dans le compromis trouvé, un dispositif propre aux écosystèmes agricoles a été retenu. Les co-législateurs ont cependant ménagé la possibilité d'un arrêt de ces mesures dans le cas où la sécurité alimentaire serait menacée. Les États membres devront obtenir une évolution à la hausse de deux des trois indicateurs suivants. L'indice des papillons de prairie, la part des terres agricoles représentant des particularités topographiques à haute diversité, le stock de carbone organique dans les sols minéraux cultivés. Enfin, l'accord fixe également des objectifs pour augmenter l'indice des oiseaux communs des milieux agricoles sur le plan national.
Vocabupiaf. On vous explique le langage mystérieux des naturalistes.
Ce mois-ci, on parle d'un sujet de saison, la migration. Il y a deux migrations. Une migration de printemps, qui commence en ce moment même, et une migration d'automne. Chez les ornithologues, celle de printemps est appelée la migration prénuptiale, c'est-à-dire celle qui a lieu avant la saison de reproduction. Quant à la migration d'automne, on l'appelle la migration postnuptiale, c'est-à-dire après la reproduction. Les oiseaux qui viennent ici seulement pendant la période de reproduction sont appelés les estivants, comme les touristes qui viennent chez nous au mois d'août. et ceux qui au contraire sont présents seulement pendant la saison froide, on les appelle les hivernants. Enfin, ceux qui n'émigrent pas sont des oiseaux sédentaires. Voilà, vous connaissez tout le jargon pour la migration, maintenant vous en savez plus pour trouver la réponse à la devinette du Dini qui arrive tout de suite.
Naturo quiz !
Une devinette nature concoctée par notre animatrice en herbe.
C'est le moment de la réponse au Naturo quiz ! Ce mois-ci, je vous questionne sur la migration des oiseaux. Ma question était toute simple. Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? La réponse peut être très simple. Parce qu'il fait froid. Oui, c'est parce qu'il fait froid que les oiseaux se déplacent vers des zones plus chaudes en hiver. Mais pas parce que ces oiseaux ont froid. En effet, leurs plumes sont très bons isolants thermiques. Si les oiseaux cherchent des endroits plus chauds, c'est pour y trouver à manger. Par exemple, pour les oiseaux insectivores, ceux qui mangent des insectes, il est difficile d'en trouver dès qu'il fait trop froid. Alors, deux stratégies s'offrent à eux. Soit changer de régime alimentaire en devenant granivores, par exemple, soit migrer vers des endroits où ils en trouvent. Enfin, cela n'est qu'un résumé de ce phénomène très complexe qui a encore beaucoup de zones d'ombre étudiées par de nombreux scientifiques. C'en est fini pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Naturo Quiz.
Voilà, c'en est fini pour cette première partie de l'Ornithoquoi. On continue cette émission de l'Ornithoquoi sur Radio Escapade en chanson puis en poésie.
Assez grande pour dépasser la cime du moindre peuplier, et les arbres ont le cœur infiniment plus tendre que celui des hommes qui les ont plantés. Pour toucher la sagesse qui ne viendra jamais, je changerai la sève du premier olivier contre mon sang impur d'être civilisé, responsable anonyme de tout le sang versé, fatigué, fatigué. Fatigué du mensonge et de la vérité, que je croyais si belle, que je voulais aimer, et qui est si cruel, que je m'y suis brûlé. Fatigué, fatigué, fatigué d'habiter sur la planète Terre, sur ce grain de poussière, sur ce caillou minable, sur cette fausse étoile perdue dans l'univers, berceau de la bêtise et royaume du mal. La plus évoluée parmi les créatures a inventé la haine, le racisme et la guerre, et le pouvoir maudit qui corrompt les plus purs et amène le sage à cracher sur son frère. Fatigué, fatigué, fatigué de parler, fatigué de me taire. Quand on blesse un enfant, quand on viole sa mère, quand la moitié du monde en assassine un tiers. Qui ont même réussi à pourrir la pluie. La liste est bien trop longue de tout ce qui m'écœure. Depuis l'horreur banale du moindre fait d'hiver, il n'y a plus assez de place dans mon cœur pour loger la révolte, le dégoût, la colère. Fatigué, fatigué, fatigué d'espérer et fatigué de croire à ces idées brandies comme des. We'll be right back.
oiseaux et puis avoir la tête si haut dans les nuages qu'aucun homme ne puisse y planter un drapeau. Je voudrais être un arbre et plonger mes racines au cœur de cette terre que j'aime tellement et que ce putain d'homme chaque jour assassine. Je voudrais le silence enfin et puis le vent fatigué, fatigué. Et fatigué d'aimer, surtout ne plus rien dire, ne plus jamais crier. Fatigué des discours, des paroles sacrées. Fatigué, fatigué, fatigué de sourire, fatigué de pleurer, fatigué de chercher quelques traces d'amour dans l'océan de boue où sombre la pensée. Fatigué, fatigué.
Les loups. Les loups ont de grands feux dans leurs yeux. À la lisière des bois, on les voit. Ils ne sont pourtant pas méchants, comme prétendent les contes que racontent les vieilles grand-mamans aux enfants. Les loups qui nous font peur ou un cœur, il faut les laisser vivre hors des livres. Isia.
Voilà, on arrive à peu près au milieu de l'émission de l'Ornithoquois sur Radio Escapade en direct. On va continuer avec Rencontre avec Homo Sapiens. Je vous explique un petit peu le contexte. Je suis allé avec mon enregistreur à l'inauguration d'une lavogne qu'on a construite sur une propriété qui appartient à l'association Fourmi-Cigale à Saint-Hippolyte-du-Fort. Et on a fait ça samedi dernier sous la pluie, une pluie qui était quand même assez intense, vous allez l'entendre. Et du coup, ben voilà, vous allez partager ça avec nous.
Rencontre avec Homo Sapiens.
Échange avec les acteurs du territoire qui contribuent à la préservation de la nature.
Il y a des photographes, mais vous pouvez... Est-ce que on ouvre hein.
Allez.
À mettre le grillage et à faire le... à bien mettre de la terre pour pas que les conduits fassent le grillage.
Une branche
de... Vous connaissez la pierre, les enfants?
La pierre de Montpellier.
Eh oui.
Vous avez participé, vous, à ça? Vous avez...
Non, on n'était pas venus.
Non, on n'était pas venus.
On a mis les pierres.
Parce que oui, je crois qu'il y a des enfants qui ont participé à mettre les premières pierres.
Ah oui, moi je suis d'accord.
Alors, c'est Anis qui fait le discours. Mais d'ailleurs, Béranger a son micro en plus.
Je suis en train d'enregistrer tout à l'heure en fait. J'ai déjà commencé.
C'est pas du tout une voix radiophonique, moi.
Non, mais.
Je sais pas ça.
Non, tu sais pas. Non, mais tu t'avais préparé un petit mot ?
Oui, j'ai préparé.
Alors ?
Il y a peut-être des erreurs. C'est très bref.
C'est enregistré, alors attention. Je peux pas te mettre la pression, mais.
Malgré la météo.
C'était bien 2019.
Ouais, 2020, je crois.
Ah, 2020 ?
Ouais, mais c'était entre les deux.
Oui,
2019-2020, quoi.
Je vais mettre le temps 2019.
Ouais, c'est possible.
J'ai repris les bulletins. Bon, oui, j'ai été nommé pour faire un petit discours, mec. Mais alors, c'est très simple.
Donc c'est en 2019 que le jardin de Michel, administrateur de la fourmi et la cigale, est parti trop vite, trop tôt, et que ce jardin est devenu celui de la fourmi. Après quelques mois d'action administrative auprès de la SAFER qui venait de préempter le terrain, le jardin des possibles était né. Et avec lui, l'idée de la création d'une mare pour plus de biodiversité au jardin, grâce à la possible obtention d'une subvention Natura 2000. L'idée a fait son chemin et en mai 2022, le dossier de demande de subvention de 27 pages était monté et déposé par Karine. En janvier 2023, nous recevions l'arrêté d'attribution de la subvention pour la construction de cette lavogne. Tout le monde était très heureux, mais malheureusement, notre demande de prêt bancaire pour l'avance du financement des travaux en attendant de percevoir la subvention ne nous avait pas été accordée. Donc voilà, à ce moment-là, tout le monde a été un peu déçu et nous avons décidé que les travaux devaient être reportés de quelques mois afin que ça nous laisse le temps de trouver une solution pour trouver un financement. En octobre, une convention d'apport associative a été mise en place afin que les adhérents de la fourmi puissent prêter l'argent nécessaire. Ça a super bien fonctionné, toute la somme a été assez vite réunie et les travaux ont pu être réalisés fin octobre, début novembre 2023. Et nous voilà donc ici pour nous réjouir de l'aboutissement de ce beau projet porté par de nombreuses personnes ici réunies. Et à qui nous tenons à remercier vraiment leur investissement, leur motivation. Donc, bien évidemment, en tout premier lieu, Karine, yes. Vraiment qui a été moteur de ce projet, qui ne s'est jamais découragé. William, je pense qu'a été d'un grand soutien. Béranger aussi, je crois qu'il a beaucoup appuyé la demande de subvention, qui a aidé à rédiger le dossier. Voilà. Christophe et Charlely, qui ont été les personnes qui ont été retenues pour la réalisation du projet. Et bien sûr, les nombreux adhérents qui ont prêté, qui ont bien voulu prêter un peu pour réunir la somme totale en attendant la réception de la subvention et afin que les travaux puissent être réalisés à temps. Oui, bravo. Voilà, et puis ben, je crois qu'on peut remercier aussi Natura 2000 pour l'attribution de la subvention
oui.
Et qui permet de la réalisation de ce genre de projet. Voilà. Voilà,
merci.
C'est tout.
Bravo, merci.
Merci. Pour un premier quand même.
Merci. Bravo.
L'avenir. Hein.
Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des étapes.
Les spécialistes des lavognes, il y en a ici un peu.
Alors, bon, William, des lavognes ou des spécialistes des lavognes.
Non, mais pour savoir s'il y a déjà de la vie dans la lavogne.
Il y avait des noctonecs qu'on a vu
ici,
la dernière fois.
On a déjà remarqué des noctonecs
qui sont proches des,
on va dire, des punaises d'eau. Qu'est-ce que, pour l'instant, ce sont les seuls insectes habitants qui sont actuellement dans la lavogne. Mais de toute façon, autour, déjà, beaucoup de coléoptères, d'insectes qui ont à un certain moment une partie de leur reproduction en milieu aquatique, sont souvent des insectes volants, donc ils vont très vite repérer ici cette belle lavogne et en profiter au maximum. Et ensuite, il y a les batraciens, c'est quand même assez important. Et les batraciens, pour beaucoup, quand même, les rainettes, la rainette méridionale, ici on a le crapaud calamite, sont des batraciens qui se promènent quand même pas mal. Il y a d'autres lavognes, ici, autour, où ces rainettes, ces crapauds sont présents. Et d'après moi, très très vite, il y a certes des rainettes, on en a déjà vu sur le terrain. Donc c'est certainement une lavogne qui assez vite va être habitée, en tout cas au niveau de la reproduction, par les batraciens.
Je pense que ça c'est.
Oui, alors après, bien sûr, une lavogne, ça sert aussi pour pouvoir abreuver des animaux. Donc on a mis un piège photographique pour voir un peu ce qui venait. Pour l'instant, les oiseaux sont des grands bénéficiaires. On a vu des pies bavards venir s'y baigner, des pies verts, des grives mauvies, des merles, des étourneaux.
Un crestrel.
Venir profiter. Un crestrel, un petit faucon crestrel qui est venu ou chasser ou boire. Donc ça, c'est très très intéressant. Ensuite, il y a été observé, pas à l'intérieur, mais vraiment sur le bord, un renard. Donc je pense que les renards, d'après moi, un renard passe dans ses mailles s'il a besoin d'aller boire ou voir ce qui se passe dans la Lavogne. Une chouine qui, elle, est clairement rentrée pour certainement boire ou voir un peu ce qui se passait. Alors, je dis rentrée parce qu'effectivement, vous voyez, la Lavogne est clôturée, bon, avec des mailles larges pour qu'un maximum de petits mammifères puissent rentrer. Mais c'est clair qu'un des problèmes, surtout pour une Lavogne vraiment comme ça aménagée, ce sont les sangliers. Et eux, les sangliers, en tout cas les gros individus, vaut mieux qu'ils ne pénètrent pas à l'intérieur.
Parce que sinon, ils défoncent tout.
Oui. Là, ils soulèveraient
les
pierres sans problème. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette barrière.
Tu peux nous expliquer comment ça s'est fait ici? Comment elle a été faite, cette Lavogne?
Oui,
à quoi ça ressemblait avant, pour ceux qui ne sont pas venus avant?
D'accord.
S'il
Donc avant, ben, c'était un terrain en herbe, un ancien terrain agricole d'un particulier. Donc il y a une entreprise qui est venue avec un petit bulle. Avant, bien sûr, on a bien essayé de zoner l'endroit où on allait faire cette Lavogne. Ensuite, vu qu'ici, il n'y avait pas de dépression naturelle, puisque beaucoup de Lavognes, souvent, partent historiquement de dépressions qui étaient déjà faites. Il a fallu faire venir un bulle qui a creusé, qui a fait donc le trou de la Lavogne. Par chance, finalement, il y a assez de terre. On n'a pas rencontré de pierre, de dalles de pierre qui auraient compliqué énormément le processus. Une fois que la Lavogne a été faite, que les bords ont bien été aplanis, le premier travail, ça a été de mettre une bâche blanche, une bâche textile, en fait, qui permet d'isoler la bâche qui vient ensuite, c'est-à-dire la bâche plastique imperméable, de la terre et potentiellement de petits cailloux qui pourraient la percer, de tout problème qui pourrait venir abîmer cette bâche. La bâche a été posée, ça a été recouvert un peu de terre, puis ensuite, mais on voit, ce sont les dalles de la pierre de Pampignan qui ont été posées, donc juste posées, non scellées. On voit qu'il y a des infractuosités assez importantes. C'est fait exprès, c'est pour que justement, quand des batraciens, des petits animaux viennent, puissent se cacher à l'intérieur. C'est fait aussi pour que petit à petit, peut-être de la terre naturellement vienne s'y mettre et que de la végétation sortent d'entre ces pierres. Voilà, il y a, comme disait Karine, un système d'évacuation des eaux qui a été mis en place pour si jamais il y avait une intervention à faire, plus importante, ou en tout cas où on ait besoin de vidanger la Lavogne, qui normalement n'est pas un point d'eau pour une eau qui reste à l'année. Normalement, les Lavognes, c'est naturel et même plutôt bien qu'elles s'assèchent totalement au moins une partie de l'année. Justement pour éviter des indésirables, et entre autres chez nous, les indésirables, ce sont les poissons. Un poisson rouge, gambusie, qui sont souvent relâchés dans les mares. Voilà, mais après, ça a été de nouveau un peu arrangé. Le grillage a été mis en place contre les sangliers qui viennent énormément tourner et se balader. J'en ai sur les vidéos, il y en a jusqu'à une quinzaine qui viennent adultes et petits. Les petits, s'ils passent, si c'est des tout petits, c'est pas bien grave.
Ouais, okay, mais...
Et donc le grillage a été mis en place. Et puis après, la Lavogne, elle s'est remplie par la pluie. Donc c'est vraiment, il n'y a aucun remplissage dû à l'homme. C'est vraiment de l'eau de ruissellement qui vient dans la Lavogne. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la vie qui va se mettre en place. Voilà. Et juste pour terminer, pour dire à l'origine, les Lavognes, c'est une conséquence du travail de l'homme, que ces Lavognes sont devenues vraiment des habitats très importants pour une grande partie de notre faune, hein, et entre autres de cette faune qui a besoin de points d'eau pour se reproduire. Mais à l'origine, les Lavognes ont été mis en place par les éleveurs, bien souvent, pour les moutons, hein, pour abreuver les moutons et avoir des pièces d'eau. Et des Lavognes, on peut en voir un peu en garrigue, sur les causses, pour celles qui sont encore en bon état. Voilà.
Merci.
Merci.
Oh, William, merci.
Merci, William.
Total info.
T'as une sèche.
Une sèche en temps de pluie, c'est
difficile. Comment vous faites,
Alex? Et peut-être Béranger, t'as
quelque... Je vous dis un mot par rapport à...
Allez,
oui. Si on a pu faire ça, c'est parce que... et le financer par des subventions... c'est parce qu'on est en zone Natura 2000 ici, on est dans une zone Natura 2000 qui s'appelle la ZPS, Gorge du Riotor Fache Cagnas. Une zone qui a été délimitée en 2006 par rapport à la présence d'espèces d'oiseaux qui sont menacées à l'échelle internationale, dont deux espèces phares, à savoir le vautour percnoptère, qui est un petit vautour qui est du côté du thorac, où il y a un couple, et un couple d'aigles de Bonelli, qui est une espèce de rapace méditerranéen, et qui se reproduit à Saint-Hippolyte-du-Fort. Et ici, on est dans sa zone d'alimentation, de chasse. Et donc, c'est la communauté de communes des Cévennes Canjoises et Suménoises qui porte ça depuis 2016. Et on mène des actions pour la préservation de ces oiseaux. Donc, on ne protège pas les oiseaux directement parce que on ne peut pas leur mettre des armures, des casques, des gilets pare-balles. Mais par contre, on essaye de protéger aussi bien leur site de reproduction pour pas qu'il y ait des dérangements à côté des nids, et leur site d'alimentation parce que ils ont besoin de manger aussi. Et ça en fait clairement partie. Si on construit des Lavognes comme ça, c'est pour favoriser la biodiversité de manière générale et de fil en aiguille, en fait, que ces espèces-là puissent avoir des espèces proies à chasser pour qu'ils restent sur ce territoire. Et donc, comme ça a été très bien dit, les points d'eau en zone méditerranéenne, c'est un peu la clé de la présence de beaucoup de biodiversité. Et donc, c'est pour ça qu'on subventionne ce genre de projet pour favoriser la biodiversité de manière générale. Quoi. Voilà. Et après, sur le fonctionnement, donc c'est je crois que ça a été dit tout à l'heure rapidement, c'est pas la communauté de communes, c'est pas Natura 2000, Natura 2000, en fait, c'est une politique, c'est une directive européenne qui a donné des sous. C'est la région, maintenant c'est la région Occitanie qui pilote Natura 2000 en Occitanie. C'est récent, hein, c'est depuis 2023. Et donc la demande de subvention, elle a été faite auprès de la région par Karine. Tu t'es régalé à faire ça.
Oui.
Et c'est donc la région qui subventionne. Eux, ils ont des sous de l'Europe, etc. pour ça. Hein. Et c'est des subventions qui sont à hauteur de 100% et qui sont portées soit par des privés sur des parcelles où ils ont la maîtrise d'œuvre, la maîtrise foncière, pardon. Soit des fois, on l'a déjà fait aussi avec des collectivités. Pour faire ce genre d'action, on fait aussi des actions par exemple de réouverture de milieux, de débroussaillement, parce que c'est aussi un des enjeux importants pour notre territoire, pour la protection de la biodiversité. Et on fait aussi plein d'autres actions, notamment sur le maintien des milieux ouverts avec les éleveurs du territoire, ils ont été cités. Et il y a des subventions propres à Natura 2000 qui sont données ici aux éleveurs pour que les troupeaux maintiennent les espaces de garrigue comme on les connaît, parce que c'est important pour les oiseaux qu'on cherche à protéger. Je ne sais pas si j'ai certainement dû oublier plein d'autres choses, mais voilà, grosso modo. Et donc on remercie à chaque fois qu'on fait, nous, parce que nous on n'a pas en tant que Natura 2000, qu'opérateur Natura 2000, on n'a pas de moyens d'action direct pour faire ce genre de choses, et du coup on s'appuie sur les propriétaires ou les collectivités pour mettre en œuvre des actions comme ça, quoi.
super.
Super, merci. Merci.
Bon, bon, on se met trop sec.
On va se mettre trop sec, oui.
Vous avez pris ton maillot?
Non, on a dit pas de poisson rouge.
Non, pas de poisson rouge.
Allez, nous aussi, on retourne au sec. On se retrouve dans les studios de Radio Escapade. Au sec, au chaud, on est bien là. Voilà, puis on va continuer cette émission de l'Ornithoquoi avec c'est quoi la suite là ? C'est un peu de musique encore, une petite pause musicale ? Allez.
Nights in white satin. Never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say. I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I'll
faire ma barbe, je veux un blaireau. Graines de rhubarbe, graines de poireau.
Par mes poils de barbe, s'écrit le blaireau, graines de rhubarbe, graines de poireau. Tu feras ta barbe avec un poireau, graines de rhubarbe, t'auras pas ma peau.
Robert Desnos.
Et voilà, on arrive au bout de cette émission. C'est le moment des remerciements. On est à l'heure, c'est pas mal, on a commencé en retard, on finit à l'heure. Bravo. C'est le moment des remerciements, donc je vais essayer d'oublier personne encore une fois, mais ça va parce que j'ai pris des notes. Pour commencer, merci à Lily pour le Naturo Quiz. Merci à toutes les personnes de la Fourmi Cigale pour l'enregistrement qu'on a fait sous la pluie, que vous avez pu entendre, avec en particulier un merci à Karine. Et William aussi, plus tous les autres évidemment. Merci aux enfants de l'école publique de Sumène qui nous ont encore proposé les différentes poésies ayant ponctué cette émission. Merci à toute l'équipe de Radio Escapade évidemment, à Fabien qui était à la technique aujourd'hui. Merci à la communauté de communes des Cévennes, Canjoises et Suménoises qui m'embauche et qui me permet de faire cette émission dans le cadre de mon travail de chargé de mission Natura 2000. Et surtout, un grand merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Si vous souhaitez rester informé de nos nouvelles, je vous rappelle qu'il y a toujours la page Facebook du site Natura 2000, Gorge du Riotor, Fage Cagnas, pour ceux qui sont connectés. L'adresse, c'est Nature à 12 000. Voilà, portez-vous bien et à tout bientôt.
Venez avec nous, entre Garrigues et Cévennes, au cœur d'un site Natura 2000, pour découvrir les nombreux oiseaux et leurs secrets, accompagnés d'un ornithologue.
Ornitho quoi ?